L'espace public est en crise, menacé par les privatisations. On enlève les bancs pour ne pas voir les pauvres, on retire les tentes des migrants. Un espace de peur. Peur du virus, peur du terrorisme, peur des femmes voilées, mais aussi de celles en mini-jupe. La danse a un rôle à jouer. J'aimerais réaliser un projet non pas en plein air, mais créer une institution sans mur ni toit dans la ville et tisser l'espace vert dont on a besoin. On souffre dans la ville où se posent désormais des questions de ruches, de jardins collectifs, de forêts urbaines, de mobilité douce. Au sein de ces questions écologiques, climatiques et énergétiques sur la ville de demain, je veux que la danse participe. Boris Charmatz est ce soir notre invité et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec une de ses compagnieras, Jeanne Balibar, pas dupe.
Je ne suis pas dupe du peu que tu m'avoues, du peu de rendez-vous que tu me donnes, du peu de coups de téléphone. Je ne suis pas dupe du peu que tu témoignes, du peu de messages d'amour quand tu t'éloignes, du peu de beaux discours. Je sais que tu m'aimes, oui même, si tu le dis peu. Je ne suis pas dupe, je peux t'aimer silencieux. Du peu que je t'offrais, du peu de temps, du peu de traces, du peu de place, du peu d'effet que tu m'as fait. Et tu n'es pas dupe du peu que je dévoile, du peu de chaleur dans ma voix, au bout du fil, du peu de serments inutiles. Pour ta faiblesse, quand je te blesse, du peu de souvenirs heureux. Tu sais que je t'aime, même si je le dis peu. Toi, tu n'es pas dupé, tu peux m'aimer silencieux.
Pourquoi aviez-vous un carnet d'autographes lorsque, petit enfant, vous alliez avec vos parents aux fêtes de l'UMA à Chambéry, Boris Charmatz ?
C'est que j'attendais de demander un autographe à Jeanne Balibar ou à son père. Non, je sais pas. Bah, je crois que c'est... Non, mais c'est mes parents avaient dû trouver ça. Ils m'emmenaient à toutes les conférences, les colloques, les possibles. Et du coup, ils avaient dû trouver ça, de dire prends un carnet et fais signer. Alors c'était c'était des élus communistes, des syndicalistes, plein de gens à qui je faisais signer. Puis après à l'opéra, j'ai continué un peu. À l'époque, les petits rats, on était à Garnier. On essayait désespérément de faire signer les danseurs qui passaient. Puis souvent, on regardait la signature, on disait « mais je l'avais déjà, celle-ci ». Je me souviens toujours de Nouriev qui voulait pas signer, en tout cas pas pour nous.
Donc, il passait, étiez un trop petit rat de l'opéra.
Oui, c'est ça. Il en avait marre, ou c'était pas son style.
En tout cas, deux familles, la famille biologique et la famille communiste, au tout départ. Et puis une histoire familiale extrêmement douloureuse dont vos parents vous ont parlé.
Oui, en fait, bon, c'est toute ma famille, c'est lié à la Seconde Guerre mondiale. En fait, il y a beaucoup de choses. Soit ma mère est pas juive, mais son père a été déporté. Mon père est juif, lui, il a été caché en Suisse. Donc ouais, c'est les histoires malheureusement communes à plein de familles et qui me j'ai fait partie d'une discussion au mémorial de la Shoah sur le fait d'être d'une génération d'après, de pas être une victime directe du tout. Je me sens pas victime d'ailleurs, mais néanmoins héritier d'un certain nombre de traumas, et d'une histoire quoi. Et c'est vrai que la première fois que ça m'a frappé, c'est que je me souviens très bien. J'étais en CE2, on commence à parler d'Hitler en classe, et évidemment pour moi tout le monde connaît Hitler. Et en fait, je me rends compte que dans cette classe, on est peut-être deux, peut-être. Et j'ai l'impression d'être seul, mais je veux pas. Et pour moi, c'est évident, que, bien sûr, qu'il y ait Hitler en CE2. Et donc, c'est vrai que, c'est une histoire qui m'a marqué, qui continue de me marquer, de m'interroger aussi et de...
Ben, je vous propose d'écouter la voix de Claude Lanzmann, qui va parler de son film Shoah. C'était en 2017.
Les Juifs ont historicisé la Shoah, ce qu'on appelle la Shoah depuis mon film, Shoah, ont historicisé la Shoah à un point... Enfin, si on réfléchit à la façon dont elle a été historicisée par eux, c'est quelque chose de très, très, très impressionnant. Et je pense que ça tient à ce que c'est un événement qui est un événement central du XXe siècle, le plus central peut-être, et je pense qu'on a le droit de former cette pensée. C'est un événement qui est notre présent même. Il suffit de rencontrer les enfants, les petits-enfants continuent à le vivre littéralement dans leur chair. Ça ne passe pas. C'est un événement qui n'a pas trouvé sa fin, qui n'a pas trouvé sa terminaison.
Nous venons d'entendre la voix de Claude Lanzmann qui parlait de son travail de mémoire admirable avec ce film Shoah, mais aussi avec tout son travail. Et c'est vrai que c'est un élément nouveau de la mémoire constitutive de la Shoah que de se dire que les petits-enfants dont vous êtes, Boris Sharmatz, ont finalement été impressionnés, consciemment ou inconsciemment ou semi-consciemment, parce que ce qu'ont enduré vos arrière-grands-parents et vos grands-parents. Ouais. Et je me demande, parce que je me souviens d'un de vos spectacles qui s'intitulait « Enfants », quand vous avez débarqué au Festival d'Avignon dans la cour d'honneur du Palais des Papes, un spectacle absolument magistral, vous étiez encore un peu inconnu, et vous étiez avec des enfants, des dizaines et des dizaines d'enfants, et certains de ces enfants étaient inertes. Vous leur aviez donné l'apparence de poupées, de mannequins. Est-ce que ce n'était pas une conséquence indirecte de l'histoire douloureuse de vos grands-parents ?
Oui, puis peut-être même quelque chose de très direct, en fait. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, mais en fait... En fait, c'est peut-être très direct. Alors, j'ai pas un travail, on va dire thématique, ou qui dirait, je vais vous parler d'eux. Je suis un danseur. J'aime vraiment ce que raconte le mouvement, ce que racontent les corps, et d'avoir des enfants qui raconteraient l'inertie, le dénuement, en fait, le sommeil où est la mort. C'était une manière assez directe, finalement. Enfin, je dis ça aujourd'hui de. Je veux dire, les enfants n'amènent pas que la vie, mais ils sont aussi, bien sûr, marqués. et notre histoire encore récente, même si elle s'éloigne, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale s'éloigne, mais avec la Shoah et le fait d'avoir cherché les enfants jusque dans leur cachette pour les exterminer, ça fait partie de moi en tout cas. Et pendant longtemps, j'avais l'impression que ça faisait partie de tout le monde, en fait, tout un chacun. Et je me souviens très bien quand j'étais enfant, je rêvais que les nazis envahissaient par hélicoptère Chambéry-le-Haut, notre ZUP. Là où j'habitais, mais je croyais que c'était le genre de cauchemar que tout le monde avait, en fait, puisque forcément et puis je me suis rendu compte petit à petit que c'était mon cauchemar, enfin, ou que c'était un cauchemar lié à notre histoire, mais que mes copains ils avaient d'autres cauchemars ou d'autres. Et la danse, et j'écris peu de textes, mais c'est la danse, je me suis rendu compte, c'était ce médium un peu à la fois direct, très très direct, parce qu'on touche aux choses, on touche au corps mort ou vivant, enfant, adulte, et on touche aussi à l'histoire en touchant les corps, mais aussi indirect, parce que c'est je prends pas la parole pour dire quelque chose. Et au moment de enfant, d'ailleurs, j'avais beaucoup discuté avec la direction du Festival d'Avignon. Je m'intéressais beaucoup au réseau Éducation sans frontières, qui avait publié des textes des lettres en fait de parents sur la situation d'enfants sans papier à l'école et comment la police venait les chercher à la sortie de l'école. C'était les années Sarkozy, et j'avais envie de citer ces lettres, de citer RESF. Ensemble, entre la direction d'Avignon et moi, petit à petit, on s'est dit, non mais je peux parler de ce RESF, de ces lettres, mais est-ce que c'est ma plus grande force de les lire en scène ou de les... peut-être qu'il y a d'autres... C'est peut-être pas comme ça que je travaille ou que ça... Et du coup, il n'y avait pas la présence de ces textes, de ces témoignages dans le spectacle, mais on était quand même nourris par cette époque qui continue en fait, hein, de lutte contre les migrants et les enfants de migrants, et puis peut-être cette époque qui continue, c'est ce que dit Lanzmann, c'est que la Shoah n'est pas close.
Est-ce qu'on peut danser quand on a peur?
Je crois que oui, en fait, qu'il y a des danses de... Enfin, moi, j'ai toujours l'impression que la danse va me sauver de tout. Donc, si j'ai peur, la danse va me sauver. Si j'ai pas peur, la danse va m'aider. C'est un peu... Il y a des gens qui sont rentrés en religion par le biais du militantisme ou de la politique. Et moi, j'ai l'impression que la danse a cristallisé plein de choses qui peuvent me sauver, me faire parler aujourd'hui au micro.
Donc, c'est une sortie de soi pour vous, danser.
Entrée et sortie, c'est ça qui est, c'est une perméabilité, quoi. C'est qu'on organise le fait que les peurs, on peut les exprimer, du coup, elles sortent. Mais on les laisse aussi, on laisse le mouvement entrer en soi, en fait. Il y a aussi des choses, on sait pas quoi faire de certaines choses, en dansant, on trouve le bon rapport à certaines luttes, à certaines peurs, à certains, et même aussi à des choses beaucoup plus positives, de désir, d'amour. Là, on entendait Jeanne Balimbard qui dit qu'il y a des amours silencieux, mais on sait qu'il y a de l'amour quand même. Et ben, par la danse, il y a certainement beaucoup d'amour silencieux qui s'exprime quand même.
Alors, quand vous parlez, vous dansez, vous êtes dans un studio et vous dansez, tout votre corps.
Parce que je sais que je suis pas filmé, enfin j'espère que je suis pas filmé, je sais pas.
Vous n'êtes pas filmé.
Je suis peut-être filmé.
Il n'y a que moi qui vous vois. Et j'ai beaucoup de chance de vous voir danser quand vous parlez, comme si le mouvement faisait partie intégrante de votre mouvement de pensée. Mmh. Il semblerait que quand vous étiez petit, on vous disait, arrête de réfléchir, danse, c'est vrai ?
Oui, c'était la manière d'enseigner la danse, hein. Ça a changé. Mais on nous disait, ouais, pour bien danser, il faut arrêter de réfléchir. Et évidemment que non, quoi. Évidemment.
Bah,
que...
c'est bête de dire ça, non ?
Eh oui, mais c'est un peu c'est cette vieille, c'est vieux tout ça, mais c'est le fait que c'est soit physique, soit intellectuel, soit sportif, physique, corporel, soit mental, réfléchir, raisonner. Alors qu'évidemment, il y a c'est ce qui est bien, mais dans l'écriture aussi, c'est très physique d'écrire. C'est pas et danser, c'est bien sûr très mental. Ne serait-ce que parce que si on n'a pas une autorisation mentale à danser, on danse pas. C'est-à-dire
je croyais qu'on pouvait danser.
Ben non,
tous vos spectacles, on a l'impression que chacun de nous peut danser et
oui,
sait danser.
Oui, mais souvent, si on est un garçon, on danse pas parce que les garçons, ça danse pas, c'est pour les filles. Il y a beaucoup de barrières mentales qui font que...
Encore maintenant?
Ah oui, énormément. Dans les conservatoires, il y a la mixité est très dur à maintenir, à obtenir dans les conservatoires de danse.
C'est le directeur de l'école de danse qui parle, donc c'est un spécialiste.
C'est un combat, mais c'est comme le combat pour le féminisme. Il y a des combats qui sont très vieux et qu'on croit avoir dépassé. On voit bien pour l'avortement, on le voit pour plein de choses. En fait, on croit que on a gagné sur le temps, et puis en fait, non. Et peut-être l'antisémitisme, puisqu'on parlait de ça au départ, on croit que c'est d'avant. Et puis ça revient, ça reste, ça recommence. Et la danse, c'est pour les filles. Moi, j'entendais ça, bien sûr, quand j'étais petit. Je pense qu'on l'entend encore beaucoup. Et puis, récemment, je voyais l'exposition de David Hockney, et je lisais que la dépénalisation de l'homosexualité en Angleterre, c'était en 67. Et je dis, mais c'est dingue, 67. Mais en France, c'est 82. Ça paraît. J'avais oublié que c'était aussi tard. Quoi. Et encore aujourd'hui, c'est pas gagné.
Qu'est-ce qu'un corps pour vous? Parce que quand on voit vos spectacles, Boris Charmatz, on se dit qu'il y a tout un travail chorégraphique sur désentraver les inhibitions à l'intérieur de soi.
Bon, c'est peut-être parce que moi, je suis très inhibé. Du coup, la danse, ça m'a permis de ça. Et c'est vrai que on peut se désinhiber de plein de manières différentes, en fait. Hein. Un petit peu de drogue, beaucoup la fête, la lecture. Il y a plein de l'amitié, l'amour, plein de. Et moi, la danse m'a permis de faire pas mal de choses. Donc, je prêche parce que j'ai l'impression que, justement, entre l'enfant et l'adulte, entre le corps raisonné et un corps beaucoup plus instinctif ou même inconscient, ça, la danse est une bonne passerelle. Et comme vous le disiez au départ, dans l'espace public, si je veux parler, je dois prendre un micro. Si je danse, ça peut se communiquer très directement, ça se voit. On peut rejoindre une danse alors qu'on n'avait pas prévu de le faire. Il y a quelque chose de très horizontal dans le fait de danser. C'est très empathique aussi. Et ça ne veut pas dire que ce soit un truc de béni oui, quoi. C'est pas la danse, c'est pour tout le monde aime la danse. Non, il y a des gens qui détestent la danse. Il y a des gens qui détestent les danses parce qu'elles sont syriennes, parce qu'elles sont classiques, ou au contraire, parce qu'elles sont urbaines, trop urbaines. Et donc c'est un lieu de confrontation aussi. La danse, c'est pas un lieu juste de gentillesse. Il y a beaucoup de violence aussi en danse. Mais j'ai l'impression que c'est un très bon médium, en fait, entre les corps, et spécialement dans notre société qui est très divisée, partagée. J'ai l'impression qu'on peut, c'est un bon médium dans l'espace public, en fait, on n'a pas besoin de scène, on n'a pas besoin de gradins, on n'a même pas besoin de micro. On n'a pas toujours besoin de musique, même si ça aide. Mais par contre, on peut organiser quelque chose dans la ville, en fait, qui soit un événement. Je dirais d'assemblée chorégraphique, en fait. Il y a un énorme désir d'assemblée, hein, assemblée citoyenne, assemblée de contestation, de protestation. Et j'ai envie qu'il y ait aussi des assemblées dansantes, dansées, chorégraphiques. Et c'est un peu comme, c'est une des pistes que je veux à tout prix explorer, maintenant, mais aussi dans le futur.
Alors, il y a eu beaucoup de vos spectacles, Boris Charmatz, qui faisaient communauté. Notamment un des spectacles qui a tourné partout en Europe, qui s'intitulait À bras le corps. Vous interveniez en tant que chorégraphe, mais aussi en tant que danseur, vers les personnes qui étaient en train de vous regarder et qui entraient dans la danse. De quoi s'agit-il au fond? Il s'agit de penser que la danse est un lien qui permet de nous rassembler, qui permet de nous sentir, de ressentir nos émotions et d'ouvrir les perceptions, d'ouvrir les possibles.
Je crois que oui, mais c'est toujours une question à reposer chaque jour, en fait. C'est pas gagné, quoi. Là, je vais danser, je danse à Bobigny, ce solo somnol. Je siffle en dansant, donc c'est vraiment c'est de la musique mentale. Je siffle plein de choses, du end.
Allez-y.
non, là je suis intimidé, mais
tout à l'heure.
Mais c'est vrai que je danse en sifflant. Et puis tout le monde siffle, on sifflote en travaillant. Bien sûr, il y a des sifflets de rue, des sifflets de harcèlement, des sifflets de police, des sifflets de manifestation. Puis on siffle des airs, on sait même pas ce que c'est, mais on siffle ce qu'on a entendu à la radio. Je voulais même appeler ce solo France Musique au départ, parce que chez
France
moi.
France Inter, hein, vous
alors,
pouvez.
Alors, j'aurais dû, mais il y a la musique au sens où il y a beaucoup de musique sur France Inter, mais quand j'étais petit, on écoutait France Musique 24 heures sur 24, tout le temps.
Ah, mais c'est bien. France
et du coup, il y a plein de choses que je sifflais ou que je siffle, mais c'est plus ce que c'est comme musique. C'est des airs, c'est des et je mets souvent du temps avant de retrouver ce que c'est. Ah, c'est un air de Beethoven, mais j'avoue, je savais pas. J'oubliais donc le mais c'est vraiment des choses liées à mon enfance ou à ce que je siffle, à ce que je danse, mais j'ai eu envie que ça se partage aussi. Et donc comment est-ce que ces musiques-là que je siffle peuvent se partager avec le public? Et dans Somnol, je me rapproche du public et je fais il y a un petit moment que j'adore où je vais prendre quelqu'un dans le public et je fais les feuilles mortes. Mais je le fais presque de manière fantomatique. C'est pas venez, on va danser ensemble. Qui veut danser les feuilles mortes enlacées. Déjà en temps de Covid, on sait que c'est très dangereux. Donc c'est un endroit comme ça de négociation. Et surtout, je le fais en fantôme presque. C'est le fantôme d'Yves Montand ou c'est le fantôme de ces musiques qui nous ont bercés et qui continuent de nous bercer. Et donc, je trouve que là, il y a un endroit de partage avec la danse, mais c'est toujours à questionner. Ça fait peur aussi. Hein, c'est le bal antique, quoi. Est-ce qu'on a vraiment le courage d'aller inviter sa future fiancée ou son futur fiancé et de casser la distance sociale? Bah, c'est toujours à rejouer. C'est à rejouer dans les clubs, c'est à rejouer dans les fêtes. Est-ce qu'on ose abolir la distance sociale?
A-t-on plusieurs corps à l'intérieur de son corps? Si j'en juge par votre itinéraire, Boris Charmatz, il y a le corps de bûcheron que vous aviez, que vous avez moins, parce que vous avez beaucoup minci. On a l'impression que vous avez presque grandi au fur et à mesure de vos actes chorégraphiques et de vos spectacles. Et puis, il y a eu le désir de s'envelopper comme Isidora Duncan ou de danser comme Nijinsky. Et puis, petit à petit, d'élaborer votre propre conception de l'art chorégraphique qui vous appartient à vous tout seul et qui est une sorte d'invitation à la danse et à la découverte de son propre corps. J'entends par là celui des spectatrices et des spectateurs. Donc, combien y a-t-il de corps en vous et avez-vous la remémoration de tous les corps d'avant quand vous dansez?
C'est drôle parce qu'on imagine souvent le danseur avec un corps. Il a un corps souple, il a un corps jeune ou pas, un corps qui saute, qui s'est entraîné. Mais en fait, je trouve c'est souvent les écrivains qui parlent de plusieurs corps. Quand j'écris, le romancier se projette dans plusieurs personnages, plusieurs corps, plusieurs époques. Mais au fond, j'ai le sentiment qu'au contraire, la danse c'est ça. C'est que en fait, on comprend mieux son propre corps, mais on s'en invente d'autres et qui étaient peut-être là en germe ou qui étaient disponibles, ils étaient à côté parce qu'on les a vus en film, on les a vus danser à côté de soi et on s'en est emparé, on les a incorporés et c'est vrai que la danse permet de toucher à de l'enfantin, à de l'animal, à plein de corps différents qui étonnent celui même qui fait ses mouvements moi j'ai eu la chance de ça, de pas seulement fabriquer mon travail chorégraphique, mais danser avec Anne-Thérèse Atkersmacher, danser avec Jeanne Balibar, danser pour Odile Duboc. Et puis là, dans le futur, parce que je vais partir à Wuppertal, travailler avec la compagnie de Pina Bausch, essayer d'emmener les œuvres de Pina Bausch avec nous au XXIe siècle, de se mettre un peu au service aussi de cette écriture-là, de ces spectacles-là. Donc, la danse permet ça, et moi, j'adore ça.
Je vous propose d'écouter la voix de Pier Paolo Pasolini, qui va parler de finalement son attirance vers la tragédie et la recherche des cas extrêmes dans son art qui mène vers la tragédie.
Je cherche toujours des cas limites parce que ma psychologie, c'est une psychologie dramatique. Je ne vis jamais dans une façon moyenne. Je trouve toujours aussi dans ma vie que la nature n'est pas naturelle. Et alors peut-être dans mon film, il n'y a pas le côté moyen des choses. Il y a toujours des choses extrêmes. toujours il y a des cas limites qui sont les cas plus tragiques, comme de toute façon dans les tragédies grecques. Mais tous les personnages des tragédies sont des cas d'exception. Et alors mon film vont être des tragédies modernes bien sûr, c'est-à-dire avec un côté humoristique ou comique.
Nous venons d'entendre Pier Paolo Pasolini qui parle des cas extrêmes. On a l'impression, en voyant votre art chorégraphique depuis 93, parce que c'est l'année où vous avez commencé à signer des chorégraphies, Boris Charmatz, que vous cherchez l'exacerbation, que vous cherchez la possibilité de traduction des conflits à l'intérieur du plateau de théâtre. Tout à l'heure, on entendait Jeanne Balibar, il y avait ce spectacle qui a beaucoup marqué les esprits, La danseuse malade, où Jeanne Balibar était dans un camion qu'elle conduisait sur le plateau du théâtre, et vous, vous étiez en train d'essayer de maîtriser ce camion un peu fou. Mais il y en a eu beaucoup d'autres depuis, qui tendaient vers... justement, la horde, la ruée, ce qui peut déchirer. On parlait de la communauté, mais aussi ce qui peut déchirer.
Ouais, on en revient un peu à la Seconde Guerre mondiale. Où j'aimerais bien des danses plus apaisées. Il y en a, j'en fais. Dans Somnol, il y en a aussi un peu. Mais je m'endors, je somnole, je danse, je siffle un peu de bac. Et puis, il y a des sortes de bribes de cauchemars qui sortent. Il y a des fantômes plus compliqués. Et peut-être que c'est comme ça. Il faut que j'accepte qu'il y a des... quand j'écoute Pasolini, je sais pas, déjà, il a un français incroyable. Mais c'est vrai que... ma culture, elle est de ce côté-là. Elle est quand j'étais enfant, je crois que j'ai vu mon premier Walt Disney à 26 ans, je crois. Par contre, Théorème de Pasolini, c'est quand j'étais hyper jeune, trop jeune sûrement. Mais là,
Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour regarder les films géniaux.
Non, il n'y a pas d'âge pour Théorème de Pasolini parce que tout d'un coup, ce jeune type qui débarque et qui explose une famille. Peut-être parce que j'ai rêvé que ma propre famille explose probablement, mais je continue encore d'être époustouflé par cette histoire, et c'est une histoire de corps aussi en fait. Hein, c'est un corps étranger qui rentre dans une famille.
Et quel corps ?
C'est ça. Et c'est comme si c'est sous-entendu qu'il fait l'amour avec tout le monde dans la famille et que du coup chacun se met à bifurquer et à prendre un nouveau chemin dans la vie, mais qui est aussi un chemin physique, un chemin artistique, un chemin politique, un chemin existentiel comme ça. Et c'est vraiment incroyable.
Et si je vous dis le mot chaos, Boris Charmatz ?
Ben c'est vrai qu'on... c'est un peu simple de dire ça. Il y a des chorégraphes de la ligne claire. Hein. Il y a des chorégraphes de l'écriture, de la ligne. Alors c'est peut-être parce que mon corps n'avait pas de ligne très, comme on entend le mot ligne à l'Opéra de Paris. J'étais sans ligne. J'avais pas le coup de pied. Et puis du coup, j'ai plus été du côté de la masse, des masses, des poids, des contrepoids, et le chaos. Je suis pro-démocratie. Hein. Je veux que le chaos soit organisé pour nos démocraties, mais en danse, dans la chorégraphie, sur scène, dans l'espace public, j'aime bien que tout soit pas juste... je déteste pas les unissons en danse, hein, où tout le monde danse la même chose, mais d'une certaine manière, moi, j'aime les danses où chacun a son propre parcours, sa propre manière de faire, et néanmoins, on se met ensemble.
Et délimite son territoire, c'est peut-être un des signes de votre chorégraphie.
En tout cas, c'est vraiment un questionnement, quoi, de sur quoi on peut marcher, à quel endroit on peut marcher, jusqu'où on peut aller. Et j'aime bien que ce soit pas un donné, c'est-à-dire que la scène pour le danseur, c'est pas un donné, c'est pas bon. On est fait pour aller sur scène, le public est fait pour être en face. J'aime vraiment les situations où on est assis sur son fauteuil, mais on pourrait être sur scène, on pourrait être ailleurs, on pourrait. Et le danseur, il est sur scène, mais peut-être qu'il est dans la tête de celui qui regarde, ou peut-être qu'il est dans la tête de celui qui est absent, ou qui est parti, ou qui est mort, ou qui est. J'aime bien l'idée qu'on n'est pas juste à sa place.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Boris Charmatz, Julie Andrews.
Often I think this sad. Just like a child who late from school walks bravely home through the park to keep their spirits soaring and keep the night at bay, neither quite knowing which way they
tard, beaucoup plus tard, tu t'es réveillé plusieurs fois peut-être, rassoupi plusieurs fois, tu t'es tourné du côté droit, du côté gauche, tu t'es mis sur le dos, sur le ventre, peut-être as-tu même allumé la lumière, peut-être as-tu fumé une cigarette. Plus tard, beaucoup plus tard, le sommeil devient une cible, ou plutôt non, au contraire, tu deviens la cible du sommeil. C'est un foyer irradiant, intermittent. Devant toi, ou plus précisément devant tes yeux, parfois plutôt à gauche, parfois plutôt à droite, jamais au centre, une myriade de petits points blancs s'organise, dessinant, à la longue, quelque chose de félin, une tête de panthère vue de profil, qui s'avance, qui grandit en montrant deux crocs acérés, puis disparaît, laissant place à un point lumineux qui grossit, devient losange, étoile, et fonce sur toi très vite, t'évitant au dernier moment en passant à ta droite. Le phénomène se reproduit plusieurs fois, régulièrement. Rien d'abord, puis des points à peine lumineux, une tête de panthère qui s'esquisse, puis se précise, grandit en rugissant, découvrant deux crocs acérés, puis un point scintillant, presque éclatant, qui s'enfle, losange, étoile, puis boule de lumière qui vient sur toi, t'évite de justesse, passant si près de toi que tu as presque cru la toucher, la sentir, l'entendre, puis rien à nouveau, longtemps, des points blancs, la tête de la panthère, l'étoile qui grandit et te frôle. Puis rien, longtemps. Ou bien, plus tard, parfois, quelque part, quelque chose comme un astre blanc qui explose.
Nous venons d'entendre successivement Julie Andrews et puis ce texte de Georges Perec que vous connaissez peut-être, Boris Charmatz, L'homme qui dort, en écho avec votre dernier spectacle, Somnole, où effectivement il s'agit d'un lâcher-prise dans tous les sens du terme, lâcher prise et permettre à l'imaginaire d'envahir son corps, comme l'explique si bien Perec qui lit lui-même son texte, mais comme vous aussi, vous arrivez à le faire en traduisant dans votre corps cette espèce de, comment on peut dire ça, d'arrêt, de suspension, d'indistinction du temps.
On imagine toujours que la danse est du côté de l'activité, quoi, de l'actif,
de l'efficace.
De l'efficace, puis aussi de la production. On produit des gestes, et j'en fais, hein, bien sûr. Mais j'adore cette idée qu'elle naît dans un demi-sommeil.
Dans les rêves, alors.
Dans les rêves, et que c'est aussi une manière de sortir de son propre corps, le rêve. Hein. C'est vrai que ce solo-là, j'ai essayé de le créer dans cet état-là, qui était lié aussi au confinement, qui était lié au fait d'être enfermé, de pas avoir accès ni au théâtre, ni au studio de danse, ni à l'extérieur parfois. Et c'est pas mon cas, mais je pensais aussi aux amants séparés, à tous ces gens qui peuvent pas se retrouver. Et au fond, de faire naître une danse à partir de ça, à partir du fait d'être allongé entre le sommeil et la veille. J'ai toujours l'impression que les meilleures chorégraphies viennent de ces moments-là, avant de s'endormir ou au milieu de la nuit. Et ensuite, bien sûr, je suis aussi un fan de studio et j'aime travailler et produire des gestes et danser. Mais ce moment de l'endormissement, j'ai l'impression que c'est un très bon moment chorégraphique qu'on n'explore pas assez d'une certaine manière. C'est très beau d'écouter Georges Perec et Julie Andrews. Donc je chante une autre composition de Mancini qui a fait cette chanson. Il a fait La Panthère Rose aussi. Mais dans Somnole, je passe par plein d'endroits. Je passe par Ennio Morricone, par Handel, par des sifflements de rue, par la police, les manifestations, par plein de manières de siffler, par des oiseaux aussi, des chants d'oiseaux. Et puis des choses, on ne sait même pas ce que c'est. C'est du bruit sifflé, c'est du souffle sifflé.
De quel endroit du corps vient-il le sifflement ?
Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est drôle.
On l'apprend pas quand on est petit rat à l'opéra.
C'est un drôle d'instrument. C'est un instrument. J'ai pris d'ailleurs des leçons avec des siffleurs professionnels. En fait, c'est très compliqué parce que le sifflet, c'est tellement petit. C'est sur les lèvres, c'est dans la bouche, c'est caché. Le violon, on voit où poser les doigts, on voit où mettre l'archet. Il y a des choses très concrètes. Et puis apprendre à devenir un bon violoniste, on voit bien le chemin qu'il y a à faire. Mais en fait, en sifflet, ça se fait vraiment par empathie. Il faut que des gens dans son entourage sifflent pour qu'on se mette à siffler. Mais ça s'apprend très lentement. C'est parce qu'un enfant ou un adulte, d'ailleurs, se met à essayer, puis à un moment, ça vient. Et puis à partir du moment où on a fait le premier son, ben on en trouve un deuxième, un troisième. Et puis, si on passe du temps, on peut siffler tout et n'importe quoi. Et c'est un instrument qu'on a toujours à disposition, à moins d'avoir les lèvres gercées. Et encore, on peut quand même siffler.
Alors, ça vient ?
De siffler ?
Oui.
Là ? Je vais vous faire il y avait un tout petit bout. Vous vous souvenez du film de Lars von Trier, horrible, où il y a un enfant, ses parents font l'amour, et il y a un enfant qui se lève et qui s'approche d'une fenêtre et qui saute. Et on entend un Handel qui fait... Ça continue, mais je fais ça.
La danse, c'est une façon de bouger, mais c'est aussi une façon de penser, quoi. Je ne crois pas à la division entre l'esprit et le corps. Ces choses vont ensemble. Une fois de plus, c'est un lieu commun de dire ça. Dans une école comme celle-ci, c'est vraiment la matière directe. De voir comment les gens... Et on voit très fort, parce que ce sont tous des gens très jeunes, comme ça, qui viennent aussi... partout dans le monde, avec des cultures différentes. C'est très beau à voir comment les gens changent dans leur corps et dans leur tête. Mmh. Et comment la tête change le corps et comment le corps change la voilà. tête.
Nous venons d'entendre la voix d'Anna Teresa de Kersmacher, tout de suite après vous avoir entendu siffloter Handel, Boris Sharmatz. Avec Anna Teresa, ça a été une autre ouverture. Ça a été l'ouverture, alors c'était plutôt Bach, mais c'était plutôt aussi deux solitudes qui se retrouvaient, deux univers artistiques qui s'entrechoquaient, et deux accords parfaits, si j'ose dire. En tout cas pour nous, spectatrices et spectateurs, de vos spectacles signés par vous deux, comme si, effectivement, vous êtes un chorégraphe qui signait des spectacles qui sont assez souvent sans musique, mais il y en a d'autres où l'altitude de la musique rejoint, comment dire, l'expression la plus simple du corps.
Avec elle, j'ai eu la chance de faire toutes les tournées, mais aussi vraiment tout le plein de semaines de préparation. Où la plupart du temps, on était accompagné par un violoniste. Donc, Georges-Alexander Van Damme et puis Amandine Bayer, qui a fait beaucoup, beaucoup les tournées avec nous et les répétitions. Et le fait d'être dans le violon, comme ça, ça change la structure du mouvement, la structure mentale, en fait, de comment on bouge, de se plonger dans des partitions, de passer des heures et des heures sur avec la musique, dans la musique. Et là, dans le solo somnol, je chante un tout petit bout de l'allemande de la partita numéro 2, donc parce que j'avais essayé de la faire au violon en la jouant très très mal, évidemment. Mais je m'étais dit, tiens, c'est peut-être marrant de la faire très mal, la partita numéro 2, au moins le début. Mais par contre, je l'avais appris par cœur en la sifflotant. Donc là, c'est un petit bout du solo où je fais l'allemande, qui est dans le duo qu'on fait avec Anne Teresa, c'est le solo d'Anne Teresa que moi je fais du coup à ma manière dans Somnol.
Alors on peut pas se quitter sans évoquer cette nomination que nous avons appris il y a assez peu de temps et qui nous a beaucoup réjouis. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas vous avez été nommé donc. Directeur du théâtre de Wuppertal pour succéder à Pina Bausch. Je voudrais d'abord qu'on l'écoute. Elle va parler de la respiration du danseur. C'était en 77.
Das Wichtigste, eigentlich, dieses Ding. Aber die, ich weiß nicht, woher die entstehen. Ich glaube, das kommt aus einem.
Cela, c'est aussi pour moi le plus important, cette chose. Je ne sais pas d'où cela vient. Cela vient plutôt d'une très forte pulsion de formuler ce que l'on ressent et pas seulement ce qu'on regarde. Simplement regarde. Mais qu'on est concerné. Et là, on arrive à des éléments qui sont fondamentaux. Et pour moi, de cacher la respiration, cela me semble très dommage. Au contraire, c'est un moyen d'expression.
Nous venons d'entendre un court extrait de Pina Bausch. Et effectivement, la respiration du danseur, les paroles du danseur, l'individualité de chaque danseuse et de chaque danseur sur le plateau de théâtre de Pina, c'était son univers, sa signature. Alors il y a eu pas mal de temps qui s'est écoulé depuis la disparition de Pina. Et puis vous, on vous a demandé, ça vous a fait quel effet ?
Ça m'a bouleversé, hein, ça m'a intrigué. J'ai passé beaucoup de temps à dire non ou à ne pas dire
tellement
oui.
Ça vous intimidait?
Bon, c'est très compliqué pour un artiste. Alors, d'une certaine manière, on prend pas la place de Pina Bausch parce qu'elle est décédée il y a 12 ans. Donc la compagnie, bientôt 13 ans, la compagnie, elle a continué. Il y a eu 12 années qui se sont passées. Donc on prend pas sa place, d'une certaine manière. C'est évident. Mais quand même, on n'accepte pas à la légère la proposition, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression que je rêvais de faire des énormes projets avec beaucoup de danseurs, et au fond, c'est peut-être lié aussi au Covid, à tout ça, j'avais envie de travailler avec un gros groupe, c'est presque une dimension sociale et historique dans le fait de travailler là-bas. Il y a 65 employés, il y a 35 membres de l'ensemble, il y a une histoire très lourde aussi, qui du coup à la fois enthousiasmante, mais très très complexe à porter, et je me suis dit que j'avais envie de ça, en fait, que c'était une sorte de pari un peu fou, mais que j'ai un lien fort avec l'Allemagne, Et au fond, c'était fait pour moi. Bon, j'ai cette histoire juive en moi. Bon, bah, finalement, je vais me retrouver en Allemagne. Je parle allemand pas hyper bien, mais quand même un peu. Et je vais m'occuper du travail de Pina Bausch, de comment on l'accompagne au XXIe siècle. Mais surtout, je vais inventer un futur pour cette compagnie.
Alors justement, il était question de ne pas toucher au répertoire de Pina Bausch, qui effectivement peut tourner pendant 3 siècles et même au-delà, tellement il est magnifique et tellement il résonne encore aujourd'hui, 12 ans après sa mort, de manière ultra contemporaine. Mais faut-il écrire après Pina Bausch pour la troupe de Pina Bausch? Est-ce que vous allez vous inscrire dans une continuité de création chorégraphique?
Il n'y a pas de continuité directe au sens où aucun artiste ne se défendrait comme étant à la suite de Pina Bausch. Mais, et puis moi, c'est une esthétique différente. Mais en plus, c'est même pas seulement que j'ai une esthétique différente, c'est l'esthétique, on va devoir l'inventer parce que c'est pas l'ensemble qui va devoir s'adapter à moi, ni moi qui vais devoir m'adapter à cet ensemble-là ou à leur histoire, mais c'est tous ensemble, eux et moi, on va inventer notre présent, notre futur, et on va bien sûr aussi continuer à jouer ces pièces, mais il ne faut pas croire qu'on n'y touche pas à ce répertoire, parce qu'en fait, elle y touchait. Elle a fait plein de versions différentes de Nelken elle-même. Et puis, bien sûr, depuis qu'elle est décédée, on continue d'y toucher. Et puis, il y a des danseurs qui sont dans la compagnie qui n'ont pas connu Pina. Donc, c'est une histoire de l'art vivant. Hein. C'est une histoire où les gestes sont pas indélébiles. On les retravaille, on les traverse. Les corps sont différents. Il y a plein de questions aujourd'hui sur le genre, les hommes, les femmes, on le définit plus de la même manière qu'en 77, quand elle parle en 80.
Et pourtant, elle était prophétesse.
Bien sûr. Mais aujourd'hui, dans la compagnie, il y a des danseurs qui se sentent pas bien, ni dans le rôle de tel homme, ni dans le rôle de telle femme. Et elle aime beaucoup dans les pièces avoir des sortes de stéréotypes de genre. Au contraire, travailler le stéréotype. Comment on fait aujourd'hui? Comment? Alors qu'on rêve de genre fluide. Donc, il y a plein de questions à se poser. Moi, j'adore ça. Et d'un côté, on va continuer le répertoire avec des lunettes ou des yeux un peu extérieurs qui sont les miens, qui sont les yeux d'aujourd'hui. Et puis on va aussi expérimenter parce qu'on peut, de même qu'on monte aujourd'hui du Shakespeare, du Rainer Müller, du Brecht, de manière variée, contrastée. Ben aujourd'hui, on peut voir du Pina Bausch par le ballet de l'Opéra de Lyon, par le ballet de l'Opéra de Paris, par des adolescents, par des amateurs seniors. Ou par cette compagnie. Mais cette compagnie, elle, il y a peut-être plusieurs manières de faire telle pièce, de faire le répertoire. Il n'y a pas une seule manière. Et je pense que la question historique en danse, elle s'est vraiment ouverte ces dernières années. Je suis par exemple ravi de voir qu'à l'Opéra de Paris, ils viennent de remonter le Sac du Printemps, mais dans la version de Dominique Brun. La question de l'histoire, c'est quelque chose qui s'est vraiment ouvert en danse, et ça va s'ouvrir aussi à Wuppertal. Qu'est-ce qu'on fait avec ce répertoire? Comment on fait? Comment on fait avec les corps d'aujourd'hui? Mais je viens principalement pour inventer les pièces d'aujourd'hui avec cette compagnie, parce que quand elle est décédée, la crise climatique était là, mais elle n'était pas aussi urgente, la crise migratoire, elle n'était pas là, le Covid n'était pas là, bien sûr, l'AFD, l'extrême droite allemande, n'existait quasiment pas, l'Europe avait l'air solide. Il y a des pièces à faire pour notre époque, et je veux les faire avec eux. J'espère qu'on va avoir du plaisir là-dedans.
Ben, merci infiniment, Boris Charmat, et bonne chance pour Wuppertal. Et en attendant, votre dernier spectacle s'intitule Somnol et il tourne partout en France.
Tu dors, mais moi
c'est avec Louni, comme la fin du monde, que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Boris Charmat. Je rappelle que vos spectacles Somnol, Infini et À bras-le-corps sont en tournée en ce moment dans toute la France. Vous pourrez trouver les dates sur notre site. Merci à Julien Michel qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Céline Villegas, Marie Mougin, Marie Clément et bien sûr à Lilian Alaume qui a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka qui est en direct ce soir pour un concert de métronomie.